Bonjour et bienvenue sur le podcast Diversité et Inclusion en Entreprise. Je suis Adrien Figula-Letor, cofondateur d'AFL Diversity et du Grand Prix Diversité et Inclusion. Dans cette troisième saison du podcast, je vous propose de partir à la découverte de personnalités qui œuvrent pour la diversité et l'inclusion dans les organisations. Ce podcast est fait pour vous donner des idées, vous donner envie d'agir et faire avancer vos organisations sur ces enjeux. Bonne écoute! Je suis très heureux de recevoir dans cet épisode Béatrice Chavanel. Bonjour Béatrice.
Bonjour Adrien.
Béatrice, je te propose de te présenter pour commencer. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie?
Je suis Béatrice Chavanel. Je suis partie au groupe Renault depuis maintenant 3 ans. Par le passé, j'ai eu une carrière plutôt dans le marketing et l'expérience client dans 2 groupes. Le premier, une compagnie d'assurance dans laquelle je faisais beaucoup de CRM et de marketing opérationnel. Et puis, j'ai rejoint au début des années 2000 la SNCF. J'ai passé quelques années chez SNCF, près de 18, il me semble, hein, si je compte bien, où j'ai tenu des postes de direction marketing et commercial et com, gestion de programme. Donc plutôt expérience client. Beaucoup de sujets de transformation. Et en fait, j'ai rejoint Renault il y a 3 ans pour travailler sur un projet de transformation qui n'a pas abouti, comme certains grands projets de grandes entreprises. Et il se trouve qu'on m'a proposé de prendre la direction de la diversité et d'inclusion, qui était une direction nouvellement créée dans le groupe. Je trouvais ça intéressant parce que ça correspondait aux sujets qui m'ont toujours fait vibrer dans ma recherche de postes successifs. Quand on parle de diversité dans un groupe où il y a déjà 80% d'hommes, beaucoup européens, une population d'ingénieurs. La diversité n'est pas forcément comme ça, ne saute pas aux yeux. Ce n'est pas forcément le premier sujet auquel on pense. Et puis, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment je pouvais mettre mon expérience d'expérience client au service des collaborateurs et comment on pouvait construire une stratégie avec les codes qui sont les miens, donc les codes plutôt du business, au service d'une transformation d'entreprise plus sur la culture, les valeurs et le mindset, quoi. Donc pourquoi j'ai pris ce poste avec beaucoup d'enthousiasme il y a maintenant un peu plus de 2 ans.
Ok, sacré challenge aussi dans un groupe comme Renault, c'est plus de 105 000 collaboratrices et collaborateurs dans 35 pays. Ton périmètre, on l'a dit, est international. Alors, ma première question, c'est comment fait-on pour s'attaquer aux enjeux diversité et inclusion dans un groupe aussi grand et avec une géographie aussi variée?
Alors, je dirais que comme on a vraiment posé les fondements de la politique diversité et inclusion du groupe, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, dans la phase dans laquelle on était et on est encore, ce qu'il faut, c'est définir où est-ce qu'on veut aller. Et en fait, quand on parle en tant que groupe, c'est nous, Renault, en tant que groupe, qu'est-ce qu'on veut proposer comme mindset autour de la diversité et de l'inclusion et comme action aux collaborateurs. Donc, en fait, c'est le groupe qui s'exprime sur des grands axes d'ambition. Ensuite, bien sûr, là où il faut être vraiment très attentif, c'est dans la manière dont on le déploie. Parce que, comme tu le fais très justement remarquer, on a une diversité de pays et surtout de cultures qui fait que l'enjeu super intéressant, c'est de dire qu'on affiche une politique diversité et inclusion ambitieuse. Mon job, c'est de veiller à ce qu'elle soit réaliste et applicable partout dans le monde. Donc, bien sûr, des axes partagés partout dans l'entreprise et sur la mise en œuvre, une écoute des différents pays et des différentes cultures pour pouvoir faire en sorte que tout le monde s'y retrouve, le groupe comme les collaborateurs.
J'imagine une vision commune, adaptée à chacun des marchés. Je crois savoir que votre politique diversité et inclusion, elle est composée de 4 piliers. Est-ce que tu peux nous en parler et nous donner des exemples concrets de ce qui est mis en place sur chacun de ces piliers chez Renault?
Ouais, bien sûr, l'idée, c'était, comme je le disais tout à l'heure, de travailler sur un principe un peu de plan d'action, de stratégie qu'on pourrait déployer sur un autre sujet. Et du coup, l'idée, c'était d'attraper en fait tant les sujets qualitatifs que quantitatifs autour du sujet de la diversité et de l'inclusion. Donc, ça m'a semblé important de poser comme premier pilier celui du traitement équitable de l'ensemble des collaborateurs, parce que c'est la base. C'est ce qui crée le fondement de la capacité de l'ensemble des publics à écouter. Parce que si on n'est pas bon sur le traitement équitable, on a beau mettre en place toutes les politiques sophistiquées qu'on pourrait imaginer par la suite, ça ne pourra jamais prendre, on n'aura jamais la crédibilité d'assurer cette sécurité de l'environnement et ce traitement pour tous. Sur le traitement équitable, on a 2 grands piliers aujourd'hui d'action. Bon, bien sûr, le premier, c'est l'absence totale de discrimination. Donc, on a déployé une politique qu'on appelle en interne zéro discrimination zone, pour dire qu'en fait, où qu'on soit, l'enjeu du groupe, c'est d'assurer un traitement fair pour tous. Donc ça, ça s'est traduit par des campagnes. On va renouveler des campagnes régulièrement de communication interne, d'accompagnement de la discrimination. Qu'est-ce que c'est? Comment chacun d'entre nous pouvons, à notre niveau, lutter contre elle? Et en réaffirmant très fortement dans une nouvelle charte D&I qu'on a déployée cette année, qu'en fait, il y avait un enjeu au niveau du groupe, bien sûr, une volonté au niveau du groupe, avec des outils qui étaient mis en place, mais que tout ça dépendait de l'engagement de chacun. Et donc, l'idée, c'est vraiment de trouver la juste balance entre ce qui relève des grands principes qui sont définis par le groupe, qui guident les comportements attendus des collaborateurs, mais aussi qui reposent sur l'engagement de ces mêmes collaborateurs. Et puis, bien sûr, dans les sujets de traitement équitable, on pense tous, parce que c'est un sujet dont on discute régulièrement, de l'écart salarial, notamment entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est un sujet qui avait été appréhendé bien avant la mise en place de la direction diversité et inclusion il y a 2 ans. Ce sujet, il a commencé à être traité il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Et on a des bons résultats sur ce sujet-là. Le groupe a un écart salarial entre les hommes et les femmes qui est vraiment très, très limité, avec quelques poches d'amélioration qu'on travaille par des plans d'action spécifiques. Voilà, ça fait partie des sujets sur lesquels on est extrêmement vigilant. Parce que quand on n'est pas bon sur ces sujets-là, qui sont toute l'évidence même du début d'écoute et de la bienveillance, on a du mal à être crédible sur le reste. Donc ça, c'est le premier pilier, traitement équitable. Le deuxième, c'est, en anglais, on dit « friendly environment », donc environnement accueillant, adapté. La traduction, elle est beaucoup moins aisée en français quand on dit en anglais, mais en fait, c'est se dire comment on doit organiser l'environnement de travail pour faire en sorte qu'on soit le moins discriminant possible dans sa forme... j'allais dire limité, et le plus inclusif possible dans sa forme la plus ambitieuse. Par exemple, sur ce pilier-là, bon, on a beaucoup travaillé au moment de la mise en place de la direction avec l'ensemble de la direction des ressources humaines sur le travail hybride. On était encore un peu au milieu du Covid, et donc on avait développé un télétravail qui était assez peu développé dans le groupe auparavant. On a décidé de prendre le virage de la mise en place d'une hybridation du travail avec du télétravail qui fait désormais partie du quotidien de l'ensemble des collaborateurs qui ont des fonctions qui le permettent, bien sûr. Le gros sujet environnement accueillant ou adapté de l'année, ça va être la politique handicap corporate qu'on lancera l'année prochaine. Mais voilà, ça fait partie des sujets où ça nous semble important, notamment sur le sujet du handicap, de commencer par la capacité qu'on a à bien intégrer les collaborateurs, quelle que soit la forme de handicap qui peut les atteindre, avant de travailler sur une dimension plus qualitative de la représentation. Donc du coup, on prend le sujet du handicap par cette approche très qualitative. Et l'ambition est de pouvoir dire à un collaborateur ou qui sont installés dans le groupe, à partir du moment où tu es collaborateur du groupe, voilà ce que le groupe met en place pour te permettre de travailler dans de bonnes conditions, quelle que soit ta situation. C'est un peu ça l'objectif de la politique handicap. Et donc voilà, donc l'environnement accueillant, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle inclusion et développement. Donc c'est tout ce qu'on peut mettre en place pour faciliter le quotidien, la vie des collaborateurs. Donc clairement là-dedans, un des premiers sujets sur lesquels on a travaillé, c'est la relance du réseau corporate de femmes du groupe, puisque historiquement on avait un réseau qui a un peu périclité parce que ces réseaux reposent beaucoup sur du volontariat, et donc y a des gens qui s'investissent, puis quand on décide de se mettre un peu en retrait sur un sujet comme ça, si personne reprend le flambeau, le réseau avait un peu perdu son périclité, et du coup on a relancé le réseau parce que dans un groupe comme le groupe Renault où on a 80% de collaborateurs qui sont des hommes, c'est très facile de se créer un réseau. C'est totalement spontané que de se créer un réseau quand on est un homme. Quand on est une femme, au milieu souvent d'équipes masculines, et même pour des femmes qui sont dans des directions où il y a plus de femmes, dans un environnement qui reste très masculin, c'est beaucoup plus difficile de se créer ce réseau et ces connexions qui sont tellement importantes pour évoluer dans des grands groupes comme le nôtre. Donc, c'était hyper important de relancer le réseau. Et puis, on a des programmes de développement qui sont travaillés par les équipes talents aussi, spécifiques, proposés notamment aux femmes. Donc voilà, donc il y a plein d'actions. Il n'y a pas que des actions qui sont pilotées par ma direction, bien sûr. Il y a toute la cohérence de la politique RH dans ces cas-là qui se met en place, et toutes les interconnexions qu'on crée à travers les différents centres d'expertise et différentes compétences RH pour s'assurer que la politique diversité inclusion, elle se déploie bien partout. Et donc, il y a plein de choses qui ne sont pas faites chez moi, qui sont faites par mes collègues. On travaille ensemble, c'est notamment le cas des programmes dédiés aux femmes dans le développement. Puis le dernier pilier, c'est le pilier de la représentation, bien sûr, parce que c'est le nerf de la guerre. Qui dit diversité, inclusion, dit preuve de cette diversité. Et la preuve, c'est des chiffres. Donc le quatrième pilier, c'est le pilier de la représentation quantitative. Ce pilier-là, aujourd'hui, il est exclusivement dédié à la représentation de genre. Comme je disais, on a 80% d'hommes dans le groupe, en moyenne, avec des petites différences en fonction des niveaux de responsabilité dans l'organisation, en fonction des fonctions, bien sûr, dans lesquelles on travaille. Aussi par rapport au pays, parfois. Mais globalement, on sait très bien que c'est vraiment la chose qui va faire prendre l'ensemble de la politique, c'est que progressivement, on intègre plus de diversité, donc dans un premier temps, plus de femmes. Parce que, inévitablement, quand on équilibre la représentation, on gère beaucoup mieux les sujets de discrimination, on gère beaucoup mieux l'environnement, beaucoup mieux l'inclusion et le développement. En fait, comme on était quand même très loin du compte, on a décidé de travailler les deux pans du qualitatif et du quantitatif, mais on sait très bien que si on ne fait pas développer le quantitatif, c'est quasiment un investissement qu'on doit réengager sans cesse et sans cesse, parce qu'on n'arrive pas à créer l'habitude et le rythme et les nouveaux réflexes qu'on crée beaucoup plus vite quand on arrive à mieux répartir la représentation dans les équipes. Donc voilà les quatre piliers sur lesquels on travaille.
Merci. Donc, garantir un traitement équitable et respectueux, proposer un environnement de travail inclusif, accompagner l'inclusion et le développement et accroître la représentation des diversités. Merci beaucoup, c'est très clair et je pense effectivement, tu l'as dit, avoir une feuille de route aussi claire qui se décline sur chacun de ces piliers par un plan d'action, c'est pour le coup une bonne manière de pouvoir avancer clairement sur ces sujets-là. Alors, j'imagine que c'est plus facile d'être une femme ou d'être LGBT au siège dans les bureaux de Billon Billancourt, certainement moins facile sur une ligne de production. Comment fais-tu pour toucher justement toutes les populations, déjà en France et évidemment à l'étranger ?
Je ne sais pas si c'est plus facile.
Ouais.
En fait, je ne suis pas sûre. Parce que je pense qu'en fait, ce qui est vraiment déterminant, c'est cette fameuse écart de représentation ou cet isolement qu'on peut percevoir un peu partout dans l'entreprise, quelle que soit en fait la forme de diversité. Et je pense que c'est de ce déséquilibre de représentation que naissent les difficultés. Donc les difficultés, bah, il y en a au siège, dans certaines directions, comme il y en a effectivement sur certaines lignes de production. Je pense qu'en fait, c'est pas forcément les mêmes problématiques. Il y a des choses qui sont plus ouvertes à certains endroits, plus insidieuses à d'autres. Enfin, moi, ce que je cherche à faire comprendre, entendre, c'est qu'en fait, quand on est issu d'une population sous-représentée, on a un vécu de son quotidien et de son environnement de travail qui est différent de la population qui, elle, se trouve majoritaire. Et il n'y a rien de mauvais ou de bon dans ça. C'est juste que, en fait, c'est une réalité qu'il faut avoir en tête. C'est très difficile à palper pour certains. Du coup, on a monté un dispositif il y a maintenant presque 2 ans, où en fait j'anime des sessions qui pour l'instant sont très genrées. Hein. C'est des sessions autour du zéro sexisme. Okay. Donc c'est une journée où j'écoute des femmes sur un site. Elles me racontent leur quotidien. J'essaie de comprendre comment elles le vivent et comment le retranscrire au mieux, d'être fidèle à leurs propos. Et ensuite, je le partage avec des managers intermédiaires du site dans un format où je les fais réagir déjà sur le vécu de ces femmes. Ensuite, je leur demande de me dire sur quelle situation ils semblent les plus à même ou les plus engagés à s'investir. Et puis après, je commence à les faire travailler sur, en tant que manager, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour faire évoluer ces situations. Et puis la journée se clôt sur une session avec le comité de direction du site, où là, une fois que je leur ai partagé l'ensemble des contenus et de ce qui a été produit par les différents groupes, je leur demande de s'engager sur un plan d'action et après on suit ce plan d'action au fil du temps. Je me rends compte en fait que cette prise de conscience de la différence de perception des environnements, quand on la met en scène, quand on la fait émerger, ça fait switcher plein de gens. Plein d'hommes, puisque je travaille souvent sur des sites où il y a beaucoup d'hommes et où je les confronte à ce que peuvent vivre des femmes dans leur organisation. Et c'est vrai que c'est le début de la prise de conscience de la différence. J'essaie de leur expliquer qu'en fait, l'enjeu, c'est vraiment d'être conscient de cette différence de perception, de cette différence d'environnement, et que chacun doit pouvoir travailler à son niveau. ces formats-là, ils ont un impact considérable sur l'ensemble des collaborateurs, parce que l'idée, c'est pas de dire qu'est-ce qu'on fait bien ou qu'est-ce qu'on fait mal, c'est ok, il y a une situation, qu'est-ce qu'on fait pour l'améliorer, pour que ensemble vous travailliez mieux, en leur expliquant que voilà, des personnes qui sont discriminées de manière totalement consciente ou inconsciente, hein, parce que il y a souvent plein de choses qui sont complètement inconscientes, on a tous des biais, ça occupe du cerveau disponible de ces personnes-là. Et que ça les rend moins efficaces, que ça nuit à l'efficacité globale des équipes parce que ça ne crée pas de la confiance, et que c'est un cercle vicieux qui s'installe, et qu'en brisant ce cercle vicieux, on arrive non seulement à travailler sur la qualité de l'environnement, mais aussi sur la qualité de ce qui est produit. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Cette prise de conscience-là, elle est top.
Merci infiniment d'avoir donné cet exemple, Béatrice. Tu m'en avais déjà parlé et j'avais trouvé ça extra. Enfin, moi, je suis évidemment un fervent défenseur de l'intelligence collective et je crois qu'il n'y a pas mieux pour engager et rendre acteur et actrice de la transformation positive et durable dans une entreprise que d'engager, de faire participer, de faire prendre conscience comme ça avec les équipes. Et j'avoue que le jour où tu m'en avais parlé, il y a quelques semaines de ça, j'avais trouvé ça juste génial. Je n'avais pas entendu par ailleurs. Donc, je trouve que tu puisses faire ça. Et puis, je crois que tu le fais sur différents sites en France.
En fait, on a fait des sites en France, on a fait des sites industriels, on a fait des sites... des fonctions qui sont très masculines. On était en Roumanie le mois dernier. On a commencé un peu à s'expatrier parce que c'est un format qui est quand même un peu... On arrive le matin, on a les mains dans les poches, quoi. Et le format se construit avec la production qui est faite au cours de la journée. Donc, c'est un format qui n'appelle pas à la sérénité de la part de l'animatrice.
Ouais, évidemment.
Et donc, du coup, il fallait vraiment le roder. En plus, c'est des sujets sensibles. Donc, la langue est hyper importante, l'expression, la restitution de ce qu'on a entendu. On a testé le dispositif en Roumanie il y a de cela quelques semaines. Et puis là, je vais aller faire un petit tour en Inde dans les prochaines semaines, effectivement, pour partager aussi, parce que pour d'autres raisons, ça fait partie aussi des pays où la représentation des femmes est dans le groupe pas excellente. Et donc, de voir comment elles vivent ce quotidien et de voir comment je peux embarquer les managers sur ces sujets-là, au-delà des sujets de représentation quantitative, c'est important aussi. Donc oui, il faut bien sûr aller accompagner l'ensemble des collaborateurs partout où ils sont dans le groupe.
C'est passionnant et je pourrais en parler avec toi pendant encore longtemps. On arrive à la fin de cet épisode. Alors, petit rituel dans ce podcast, on termine par un conseil très pratique que tu pourrais partager, donner à une entreprise qui voudrait avancer sur ces enjeux diversité et inclusion.
Ah, je ne sais pas si c'est un conseil, mais en tous les cas, je pense que ce qui est important quand on travaille sur la diversité et l'inclusion, notamment parce que ça devient vraiment un sujet vraiment à la mode, c'est de vraiment faire des choses concrètes. Parce que l'enjeu de la diversité et l'inclusion, c'est un sujet de longue haleine, parce que transformer une entreprise sur ces sujets-là, c'est un sujet de transformation aussi important que de la transformation de métier ou d'offres. C'est vraiment quelque chose de profond, donc ça prend du temps. Donc il faut s'armer de courage. Mais ce que je dirais, c'est qu'en fait, quand on arrive et que le sujet comme ça, il est un peu vierge, parce qu'il est, c'est le cas dans beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui, c'est qu'on a plein de portes d'entrée possibles. Et en fait, il faut marteler sur un sujet. Et puis quand on a instauré de nouvelles habitudes, de nouvelles règles, et du coup, un nouveau mindset, on peut rentrer progressivement des nouveaux items. Et je sais qu'on fait souvent la remarque en interne de beaucoup travailler sur le sujet de la représentation de genre. Je dis souvent que la représentation de genre, c'est une représentation évidente. Elle se voit. Elle se voit grandement. Et du coup, l'assumer et la porter, c'est quelque chose qui marque une transformation. Moi, j'ai la conviction intime que quand on n'est pas bon sur la représentation de genre, il y a peu de chances qu'on soit bon sur quelque autre forme que ce soit. Parce qu'on enforce des portes avec la diversité de genre qui serviront après toutes les autres formes de diversité. Donc voilà, il faut, je pense qu'il faut prioriser. Je suis souvent contactée en me disant « Ah, on a un super projet !» C'est une thématique que moi, dans mon plan, j'ai prévu de travailler dans 12 ou 18 mois. Voilà, je reste focus parce que je sais qu'en s'éparpillant, on demande trop aux gens. Et donc, il faut rester focus, aller par petits pas, petites priorités les unes après les autres. Et c'est un peu frustrant parfois parce qu'on a l'impression qu'on pourrait absorber beaucoup plus. Mais en fait, ce n'est pas nous qui devons absorber, c'est l'ensemble du groupe. Et comme tu le disais, on est plus de 100 000 collaborateurs. On s'exprime dans plein de langues différentes. Quand on fait quelque chose, il faut le faire aller au bout. Et pour aller au bout, il faut du temps. Donc voilà, la priorité est un peu assumer un peu de frustration.
Donc, s'armer de courage, ne rien lâcher, rester focus et effectivement avancer pas à pas sur ces sujets si importants. Merci beaucoup, Béatrice.
Merci à toi.
À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez tous les autres sur notre site www.afldiversity.com et n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. N'oubliez pas, la différence est une force.